RMC, Ligue de BKT, le débrief.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain. C'est le tout nouveau podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qu'est la Ligue 2. Chaque semaine, vous le savez, deux joueurs majeurs viennent analyser la journée qui vient de s'écouler. Je vous rappelle d'ailleurs le casting. Anthony Briançon, capitaine de Saint-Etienne, Daniel Congré, capitaine de Dijon, Romain Thomas, capitaine de Caen, Gaëtan Westbeck, capitaine de Sochaux, Jordan Adeoti, le Lavallois, et Sébastien Salamonge, le Bastier. C'est un événement cette semaine puisque c'est le premier hors-série de la saison. Nous sommes en plein cœur de la première trêve internationale après 9 journées disputées. On va donc analyser la période qui vient de s'écouler avec 3 entraîneurs de Ligue 2. Luca Elsner, coach du Havre, qui est avec nous. Bonjour Luca.
Bonjour, bonjour.
On est également avec Philippe Insberger, l'entraîneur d'Amiens. Bonjour Philippe.
Bonjour, vous avez perdu.
Ah ouais, bah voilà, on vous a retrouvé. Et Olivier Frappoli qui est là également, entraîneur de Laval. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Alors messieurs, ensemble, on va revenir sur vos débuts de saison respectifs, sur les faits marquants de ce début de championnat et puis sur les talents RMC BKT de la Ligue 2, les joueurs qui vous ont impressionné depuis le début de saison. Nouveauté également ce midi, nous sommes également en direct sur Twitch. Je sais pas, Luca, Olivier, Philippe, si vous maîtrisez Twitch. Mais on est en direct en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc les supporters de vos clubs, Havre, Amiénois, Lavallois, peuvent venir laisser des commentaires ou alors vous poser des questions directement. Je vais relayer les messages. Allez, Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti.
Le contre-pied parfait, l'ouverture du score pour le Havre ici, avec ce pénalty transformé par les Havrais, par le capitaine Victor Lecal.
Légion de Bordeaux, c'est Josh Maja qui trompe au premier Ivan Filipovic. Après une très belle ouverture, il est servi dans la surface de réparation.
Et l'ouverture du score, cette belle combinaison des Stéphanois dans la surface de réparation. Et c'est Wadji qui va concrétiser tout ça.
Et l'ouverture du score pour Sochaux avec ce centre de Fossourier pour la tête de Sissoko qui est certes monté bien haut.
Et un but de Fofana pour Amiens qui ouvre donc le score pour ses coéquipiers. Il est allé se le chercher un petit peu tout seul son but.
Hein.
Et le but à Bastia, le Sporting qui marque grâce à Sébastien Salamonge, très bien servi de la surface sur le côté droit. Ce centre qui est arrivé sur le joueur Bastier qui a catapulté le ballon au fond des filets.
Alors vous avez entendu hein, ce cri d'animal assez bizarre. Philippe, je ne sais pas si vous connaissez la tradition sur RMC, mais nous on a Jean Baumel qui commente les matchs à la licorne et en fait il imite un cri de licorne dès qu'Amiens marque un but.
Je savais pas que la licorne avait un cri particulier, mais c'est intéressant de le savoir.
Nous non plus, on savait pas, mais lui a inventé ça depuis 5 ans. Et dès qu'il y a un but d'Amiens, on se régale sur RMC à le faire crier. Évidemment, c'est toujours un bon moment. D'ailleurs, ça a bien marché lors de la dernière journée, puisque vous avez gagné, vous avez mis 3 buts. Donc on a eu 3 licornes.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a plus de possibilités cette année que l'année dernière.
Ça c'est vrai, on aura le temps d'en reparler. Messieurs, je vais juste rappeler le classement de la Ligue 2 après 9 journées écoulées. Sochaux est donc en tête avec 19 points, suivi par le Havre. Luca Elsner, deuxième avec 18 points. Bordeaux est troisième avec 17 points. Amiens, Philippe Insberger, est quatrième avec 17 points également. Guingamp, cinquième avec 16 points. On a donc 5 clubs qui se tiennent pour l'instant en 3 petits points. Et puis le bas de tableau, on rappelle les relégables, QRM qui est 19e, New York est 20e. Mais il y a seulement 3 points d'écart entre le 12e, le Paris FC et donc le dernier, New York. On rappelle, Olivier, que Laval est pour l'instant 13e de championnat avec 10 points, hein, Olivier.
Oui.
Voilà.
Donc ça nous irait très bien à la fin de la saison.
Ouais, ça, j'imagine. La Valsigne pour terminer à cette place-là. Bon, alors messieurs, honneur au mieux classé d'entre vous, c'est Luca Elsner, l'entraîneur du Havre, qui est deuxième du championnat. Une nouvelle ère cette saison avec votre arrivée, Luca. On peut rappeler également l'arrivée de notre ami à RMC, Mathieu Bodmer, en tant que directeur sportif. Luca, avec un peu de recul, est-ce que vous estimez que vous êtes en avance sur le tableau de marche cette saison?
Je pense que oui, si on analyse notre pré-saison, les matchs amicaux, l'entame dans la saison, je pense que même nous aurions eu du mal à nous placer à cette position après 9 journées. Donc on est un petit peu en avance. Et après, l'objectif pour nous, c'est que ça dure. L'Havre a réussi aussi à une bonne entame la saison passée. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire durer ce plaisir et de se maintenir à cette place le plus longtemps possible.
La série actuelle est excellente, il y avait 4 victoires d'affilée. Finalement, la trêve est tombée au mauvais moment, Luca.
Peut-être, en termes de dynamique de victoire, oui. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques bobos d'ordre médical sur le dernier match. Donc je pense que la trêve a fait du bien. Un petit peu aussi aux têtes, parce que c'est vrai que les garçons se sont engagés beaucoup sur les dernières semaines, donc on avait besoin de cette petite pause.
Je rappelle hein, le détail de vos matchs. D'ailleurs, une seule défaite cette saison pour le Havre, c'était à Valenciennes lors de la deuxième journée 1-0. 5 victoires et 3 matchs nuls. C'est intéressant d'en parler tous les quatre, messieurs, parce que Olivier et Philippe, vous avez affronté les Havrais. Hein, d'ailleurs, on peut peut-être démarrer dans l'ordre chronologique. C'était d'abord face à Amiens, Philippe Insberger, le 27 août, un match nul un peu partout. Vous aviez eu quelle impression de cette équipe havraise alors, Philippe ?
Oh, nous, c'est un miracle, hein, le match nul. On est tombé sur une très, très bonne équipe du Havre, qui était vraiment techniquement au-dessus de nous. Et puis nous, je crois qu'on est rentré 3 fois dans la surface de réparation de l'adversaire. Donc, je pense que sur ce match, on n'a pas non plus vu le vrai visage d'Amiens. On n'a pas su leur faire assez mal. Mais sur le match, il n'y a pas photo. On marque sur un penalty. Lucas, je me trompe. Attends, on marque comment, nous? Je me rappelle même plus.
Ah, mots. C'est quoi le but d'Amiens contre vous, alors, Lucas?
Le but d'Amiens, c'est sur, je crois que c'est sur un centre dans la surface.
Ah oui,
c'est un centre contré qui arrive et finition à la tête. Et puis le gardien fait un arrêt miraculeux, Arthur, Badji et puis elle est poussée. Mmh. Voilà.
Et ouais, voilà. C'est à Caen qu'on a marqué. Parce qu'à Caen, on a fait à peu près le même match, mais on a marqué sur penalty. Bon, c'était, pour nous, c'était un nul vraiment heureux. Et le Havre, sur le coup, ils nous ont vraiment impressionnés sur ce match.
Bon, au moins, c'est objectif, c'est ça, Lucas, de la part de Philippe. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'on avait livré une de nos meilleures prestations. Après, on a couru derrière le score pendant longtemps. Et il y a eu dans le contenu, c'est vrai, beaucoup de bonnes choses. On a été surtout heureux de pouvoir limiter la casse. C'est vrai qu'encaisser un seul but contre la force offensive amiennoise, avec les deux joueurs devant, puis les transitions rapides, on en avait peur parce qu'on les avait joués en préparation et on en avait... se subit de lourdes conséquences avec les quatre buts encaissés. Donc on s'était beaucoup attardé sur notre capacité à être vigilant défensivement et à ne pas faire d'erreurs avec ballon, et ça nous a plutôt bien souri, même si c'est vrai que on a eu une petite déception de pas avoir remporté le match. Ouais. Après, on est revenu au score et face à cette armada, c'était pas si mal.
Et du coup, 3 jours plus tard, vous vous êtes vengé à Laval avec cette victoire 3-1 sur les terres d'Olivier Frappoli. Olivier, qu'est-ce que vous retenez justement de ce match face au Havre, à vous?
Alors nous, on avait fait une très bonne première mi-temps. On avait réussi à les bousculer, à les empêcher de poser leur jeu et pratiquer leur football. D'ailleurs, on menait 1-0. Malheureusement, ils égalisent très très vite au retour des vestiaires, je crois à la 48e de mémoire. Et ensuite, ils ont pris l'ascendant au niveau technique. Ils ont des longues phases de possession, donc on a un peu reculé. On tape le poteau, on avait la balle du 2-1 à la 70e et quasiment sur l'action suivante, ils marquent 2-1 et après, voilà, après ils ont maîtrisé totalement le dernier quart d'heure. C'est une équipe qui a, je crois que c'est une des meilleures possessions, si ce n'est la meilleure possession du championnat. Et c'est vrai que quand ils mènent au score, ils sont difficiles à jouer.
Ouais, et voilà, ça s'est confirmé. Puis c'était la première des 4 victoires consécutives donc pour le Havre, qui a ensuite battu Caen dans le derby, qui est allé gagner à Niort et qui a battu Annecy lors de la dernière journée. Alors Philippe, parlons du début de saison de l'Amiens SC. Hein, Amiens qui est également une bonne surprise du début de saison. Amiens est 4e, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Même si, pour vous, ça avait démarré difficilement, sur vos terres en plus, à Metz, défaite 3-0. Est-ce que vous étiez inquiet à ce moment-là ou est-ce que vous dites non, ça reste un match et il en reste 37 à disputer?
Vous savez, si je m'en réfère à la saison dernière où on a gagné notre premier match, notamment à domicile, à la 12e journée, je crois qu'on a gagné un match sur 12.
Ah ouais.
On n'est pas rentré dans ce championnat en fanfaronnant. Simplement, j'ai été écouté par les dirigeants avec la réduction du nombre de joueurs dans l'effectif. On avait un effectif beaucoup trop nombreux l'année dernière. Et on a intégré aussi pas mal de jeunes du centre de formation, donc un groupe beaucoup plus dynamique. Je dirais une préparation complètement différente de ce qu'on a fait l'année dernière. Des matchs préparation où on alternait des branlés en Belgique, 4-1, 4-2, sans faire des mauvais matchs. Et puis des matchs un peu particuliers, Lucas l'a dit, 4-1 contre le Havre. Un peu les montagnes russes. Donc on est parti là-dedans sans trop de certitude. Mmh. On a fait un très bon match à Metz. C'est notre meilleur match à l'extérieur de loin. Et le score de 3-0, et c'est autant, alors au Havre, on ne mérite pas de prendre un point. Autant à Metz, on mérite certainement pas de prendre 3-0. Mais bon, force offensive aussi de Metz, beaucoup de courses dans la profondeur. Enfin, une équipe taillée pour moi, pour ce championnat de Ligue 2. Donc, ouais. c'est pas forcément quelque chose qui nous a, enfin, qui m'a en tout cas personnellement inquiété parce que le contenu était pas si mauvais que ça. Voilà. Bah. On a fait de moins bons matchs, bien moins bons matchs derrière. Pour les gagner, notamment à domicile, deux fois 1-0, des matchs un peu à l'arrache, où on a pris 3 points, c'est pas qu'ils étaient pas mérités, mais bon, voilà, donc le championnat... Aujourd'hui, en tout cas, pour répondre à votre question, je suis très, très, très content du début de championnat, parce que je peux juste comparer avec il y a un an, à cette époque-là, on devait être 18e ou 19e.
Mais c'est intéressant, parce que vous êtes le plus expérimenté des coachs de Ligue 2, hein, plus de 600 matchs sur les bancs des différents clubs que vous avez entraînés dans ce championnat. C'est votre deuxième saison. Je me rappelle, vous étiez arrivé de Grenoble, vous aviez disputé les barrages, vous avez été surpris du chantier qui était devant vous, justement, à Amiens, et on a l'impression que les choses se mettent en place sur cette deuxième saison, finalement, Philippe.
Oui, parce que à un moment donné, à partir du mois de mars où on savait qu'on allait se maintenir, moi j'ai posé entre guillemets, alors, je ne vais pas dire mes conditions, je ne vais pas être plus prétentieux que je ne suis, mais en tout cas dans les discussions avec le président John Williams, qui sont mes deux référents sur l'aspect et club et l'aspect sportif, voilà, moi j'ai dit que je ne voulais pas continuer comme ça. Moi, je voulais un effectif de 22 joueurs avec en intégrant les jeunes du centre de formation. Mmh. C'est-à-dire m'appuyer sur un noyau de 15-16 joueurs pour pouvoir jouer un championnat de Ligue 2 qui finalement nous occupe une fois par semaine. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on est surbooké de ce côté-là. Donc, je ne vois pas pourquoi... quand je suis arrivé l'année dernière à Amiens, il y avait 37 joueurs sous contrat. Bon, Luca y était il y a quelques années. Ouais. Il connaît aussi un peu le problème avec des gens prêtés qui revenaient, un club qui venait juste de descendre, relégué administrativement. Donc, un petit peu dans une... Bon, il a fallu purger. Il aura fallu 2 ans à ce club, c'est normal, pour purger un petit peu cette descente administrative. Maintenant, quand vous êtes là déjà pour la deuxième année... c'est pas comme l'année dernière quand je suis arrivé où à Grenoble on se battait pour le 21e ou le 22e joueur, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes clubs. Il a fallu que je prenne aussi la connaissance de ce club d'Amiens. Et aujourd'hui, bon, je peux faire avec un groupe qui est plus à ma main, qui me ressemble plus et qui est taillé pour que je puisse bien m'exprimer.
Ouais, Lucas, ça vous parle forcément Amiens, puisque c'est là que vous aviez découvert le championnat français. C'était en Ligue 1 l'année Covid 2019-2020. Ça vous rappelle des souvenirs, forcément, tout ce que dit Philippe là.
Certainement. Et puis, j'ai vécu la transition Ligue 1-Ligue 2, oui, qui a été difficile parce que, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui levent une descente avec un paquet de joueurs qui se considèrent d'un niveau supérieur. Donc, la Ligue 2 n'est plus une possibilité. Donc, on se retrouve un petit peu entre deux eaux. Et il faut du temps pour que la transition puisse se faire. Et c'est normal que quelques mois, quelques années, une ou deux saisons passent avant de retrouver une dynamique, on va dire, vers l'avant où tout le monde est concerné par le même objectif.
Ouais, avec un bel amalgame, hein, je trouve, Philippe, dans votre équipe, entre joueurs d'avenir et joueurs expérimentés, quoi. Notamment, par exemple, les deux attaquants, Aaron Kodare, 21 ans, Papi Cissé, 37 ans. C'est bien, c'est deux carrières, deux trajectoires complètement différentes, mais assez complémentaires, finalement.
Oui, alors c'est aussi l'objectif, c'est d'encadrer ces jeunes joueurs. On a beaucoup de jeunes joueurs quand même. Luca en connaît quelques-uns. On a des garçons qui jouent, d'Exantype, des Genet, des Lachuaire, etc. C'est pas toujours titulaire, mais ça joue. On a intégré en plus cette année 4 jeunes entre 18 et 19 ans qui ont vraiment de la qualité pour l'avenir. Après, il faut leur faire de la place. Après, on peut pas jouer avec ça en Ligue 2, nous, quand on a perdu Badji, quand même, je le rappelle, entre la 6e et la 7e journée de championnat, c'est entre le mardi et le vendredi, le mec, il est parti, on a quand même perdu notre meilleur buteur, notre meilleur attaquant, et qui avait 25 ou 26 ans. On s'est retrouvé avec Aaron Kodare, 21 ans, Chibozo, qu'on a pris la Juve, 18 ans, et Hassan Bandé, qu'on a pris à l'Ajax, 22 ans. Donc, il nous fallait quelqu'un pour épauler. Alors, on a peut-être fait très très fort en prenant un garçon de 37 ans, Papi Cissé. Mais voilà, quand on voit le garçon aujourd'hui taillé comme il est, alors il a certainement plus ses jambes de 20 ans, mais bon, par contre, beaucoup d'expérience et surtout, je trouve, une dynamique sur les autres joueurs qui est très, très, très intéressante parce qu'il ne vient pas étaler un peu son CV, il ne vient pas expliquer qu'il a fait ci, il a fait ça. Au contraire, je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup d'humilité.
Alors Olivier, parlons du Stade Levallois, hein. Vous retrouvez la Ligue 2, c'est un club historique de ce championnat quand même. Laval, ça parle à tout le monde, ce fameux but à Laval, forcément, on l'a tous entendu. Olivier, en plus, quel spécialiste des titres de champion de national, hein, notamment avec l'US Orléans, ça nous parle à tous les deux, forcément, oui. Olivier. Vous êtes 13e aujourd'hui, 10 points après 9 journées. Vous aviez fait de bons débuts d'ailleurs, hein, victoire à Furiani, à Bastia, donc, et puis ensuite des points pris également. Et puis il y a eu cette série de 4 défaites qui vous a mis un peu dans le doute. Heureusement, vous avez redressé la tête juste avant la trêve dans ce match un petit peu au couteau déjà face à QRM. Vous êtes allé gagner chez eux d'ailleurs 3-1. Elle fait du bien, j'imagine, Olivier, cette victoire juste avant la trêve pour justement souffler et repartir sur de bonnes bases, quoi.
Oui, évidemment, elle fait du bien. Après, vous l'avez dit, on a bien démarré le championnat, mais si on regarde nos victoires sur les 3 matchs, c'était à Bastia, à Annecy et à Quevilly. Ce sont pas des équipes qui étaient dans le top 10 de Ligue 2 la saison dernière. On a joué à domicile Guingamp, qu'on avait bousculé, et on s'est incliné sur un but qui sera certainement le but de la saison.
De Livolan, but de venu d'ailleurs.
Ensuite, on a reçu Metz. Philippe en a parlé avant, on était mené 3-1, on revient à 3-3. Ensuite, on a reçu Le Havre. Et après Le Havre, on est parti 3 jours après, le troisième match en 6 jours à Sochaux. Qui est en pleine forme. Donc évidemment, cette série de 4 défaites en 10 jours finalement, elle a semé un petit peu de questionnement, de doute qu'il fallait très très vite lever. On a conscience aussi que dans ce championnat, il y a quand même deux championnats, je trouve, qui se dessinent, et on sait qu'on a des matchs de notre championnat qu'il faut savoir bien négocier. Voilà pourquoi. Je trouve que dans la gestion de la préparation du match de Quevilly, on a été performant parce que c'était loin d'être simple. Le lundi avant le match à Quevilly, on n'était pas tous dans les bonnes dispositions, mais on a su trouver les leviers pour aller gagner là-bas et nous permettre d'être aujourd'hui dans l'objectif du club, à savoir de maintenir le club en Ligue 2.
Le gap est important, Olivier, vraiment, entre le National et la Ligue 2. Il y a une vraie différence de
niveau.
Oui,
clairement oui. Ouais. La saison dernière, on a fini la saison avec 67 points en 34 journées, donc quasiment 2 points par match.
Ouais.
Plus de 20 victoires. Et évidemment, il nous a fallu aussi nous rendre compte que ce qui pouvait passer en National ne passait plus en Ligue 2.
Eh oui.
Les petites erreurs que l'on pouvait commettre n'avaient plus leur place. Et voilà. Et comme on a plutôt bien redémarré la saison, peut-être qu'inconsciemment, on n'a pas pris la pleine mesure de ce qui nous attendait. On en avait quand même malgré tout conscience. Mais on a vu quand même la différence en jouant des équipes du calibre du Havre, de Sochaux ou de Guingamp, qui avait quand même un fossé important avec le National.
Alors messieurs, justement, profitons-en, parlons de votre ressenti à tous les trois sur ce championnat de Ligue 2. 9 journées disputées, je le disais, vous avez des expériences différentes. Plus de 600 matchs, on l'a dit, pour Philippe Insberger, Niort, Le Havre, Laval, Créteil, Metz ou encore Grenoble, aujourd'hui Amiens. Olivier, vous, plus de 60 matchs, mine de rien, hein, évidemment, dans ce championnat. Et puis Luca, un petit peu moins d'expérience en Ligue 2, seulement 5 matchs à Amiens, justement, avant un départ à l'époque, cette année 2020. La parole à Philippe, est-ce que ce championnat est plus relevé qu'il y a quelques années, à votre avis ?
Oh, clairement, clairement. Ne serait-ce que par aujourd'hui, je veux dire, il y a deux choses qui sont flagrantes, c'est les stades et les pelouses. Je veux dire, il y a 15 ans, en Ligue 2, c'était, il y avait 3 beaux stades, et le reste, c'était des terrains catastrophes. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, alors on va enlever Laval, qui attend de faire son stade. On va enlever Niort, on va enlever 4 ou 5. Le reste, vous jouez que dans des très belles enceintes.
Ouais.
Donc,
Le Havre,
et puis
oui.
On a, et puis, on joue aujourd'hui sur des galettes, on joue sur des terrains qui sont quasiment tous des hybrides, qui sont de la même teneur que les terrains de Ligue 1, donc ça permet de développer du spectacle. On traverse l'hiver avec des terrains corrects qui nous permettent de jouer au football.
Ouais.
Voilà. Et puis quand on voit aujourd'hui, ne serait-ce que l'énoncé, quand vous faites l'énoncé des clubs qui sont en Ligue 2 aujourd'hui, quand vous savez que déjà, si on prend les gros clubs, globalement, entre guillemets, entre Metz, Saint-Etienne et Bordeaux, il y en a déjà un qui va se dire qu'il ne va pas remonter.
Bien sûr.
Donc quand vous voyez déjà ça, vous voyez déjà... aujourd'hui la position de la poule de Ligue 2 où elle se situe. Donc voilà, quand vous voyez des joueurs, la qualité des joueurs qu'on va retrouver en Ligue 2 aujourd'hui, c'est quand même assez énorme pour moi.
Lucas, vous êtes passé par la Belgique entre-temps, donc entre votre passage à Amiens et votre retour en France au Havre. Est-ce qu'on peut comparer un peu les championnats? Est-ce que les niveaux se ressemblent ou est-ce que c'est difficile justement cette comparaison entre la première division belge et peut-être la deuxième division française?
La comparaison reste difficile. Maintenant, c'est vrai que nous avons une Ligue 2 extrêmement relevée. Chaque week-end, on a l'impression de jouer un prétendant logique à la montée.
Ouais.
Et en termes de comparaison, là où la comparaison est difficile, c'est qu'en Belgique, il y a quand même un socle de quelques équipes de très très haut niveau. Je regarde le club Bruges, Anvers, Anderlecht, pour les citer.
Les clubs européens.
C'est des équipes qui correspondent au niveau européen, qui ont leur place en Ligue 1, forcément. Donc voilà, après, il y a aussi un fossé à l'intérieur du championnat belge lui-même, où voilà, on a un mélange d'équipes qui peut se comparer à ce qu'il y a aujourd'hui en Ligue 2. Mais en tout cas, notre Ligue 2, cette saison, est extrêmement relevée. Peut-être que les styles de match ne sont pas forcément les mêmes, donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile de faire une comparaison directe. Mais par contre, c'est un championnat extrêmement intéressant que nous vivons, d'ordre tactique, avec des profils d'équipes différents. Et puis, c'est vrai, une qualité de joueur qui est vraiment forte. Et qui, sur chaque moment des 90 minutes, peut créer, on va dire, des éléments offensifs un peu surprenants et une qualité individuelle sur laquelle il faut se préparer constamment.
D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, avec moi, j'ai trois adeptes de la défense à trois là, cette saison. Là, ça joue à trois à Amiens, à Laval et au Havre. Hein. C'est bien ça, les gars.
Nous, de notre côté, on joue défensivement, non.
Défensivement, non. D'accord.
Non.
Ouais, mais après ça tourne. Olivier, depuis votre dernier passage, les changements, pareil, de cette Ligue 2, même les changements offensifs, on a l'impression, parce que le potentiel offensif, on l'a dit, il y a peut-être un championnat de vitesse avec de gros calibres, évidemment. On sent vraiment des attaquants très performants en Ligue 2. Quoi. On peut penser à Le Billon, à Dijon, il y en a un paquet, hein, évidemment. À Sochaux, il y a ce potentiel offensif avec Sissoko, Westbeck, Mauricio. Il y a de la qualité offensive, c'est peut-être ça qui fait la différence aussi, Olivier.
Hein. Oui, je pense. D'ailleurs, on l'a vu dans les scores, parce qu'habituellement, il n'était pas étonnant, quand on regardait le multiplex de Ligue 2, d'arriver à la mi-temps et d'avoir un ou deux buts seulement marqués sur toutes les pelouses. Là, quand on voit les scores à chaque journée, on se rend compte qu'il y a, cette année en tout cas, il y a vraiment des attaques vraiment de grande qualité et puis des joueurs qui sont capables vraiment de faire la différence, beaucoup plus qu'en national par exemple. Nous, voilà, on le voit très clairement, il y a des joueurs de Ligue 1 dans cette Ligue 2 et qui sont capables de faire basculer un match. Donc offensivement, c'est vrai qu'il y a, cette année, je trouve qu'il y a un niveau vraiment très intéressant.
Dans ce podcast, on a eu Romain Thomas, donc capitaine Canet, qui lui a fait 7 saisons à Angers en Ligue 1 et qui nous disait finalement, je suis assez surpris par le niveau global de cette Ligue 2. Il a dit ce qui fait vraiment la différence, c'est le talent d'exception de certains joueurs quand vous jouez en première division, hein, que ce soit pas seulement à Paris, d'ailleurs dans toutes les grosses écuries, mais le niveau moyen était quand même excellent. Et puis, je regardais votre effectif, Philippe Hinsberger, joue un joueur comme Jérémy Gélin, qui est un cadre de votre équipe, qui est quand même un joueur estampillé Ligue 1, mais qui n'est pas non plus en fin de carrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même en Ligue 2, il y a des joueurs comme ça, en pleine force de l'âge, qui se retrouvent dans des clubs de Ligue 2. Quoi.
Oui, bien sûr. Et après, la particularité de Jérémy notamment, c'est qu'il s'est fait des croisés juste avant les Jeux Olympiques l'année dernière. Il était parti avec la sélection olympique, et deux heures, un truc de fou, hein, deux heures avant le départ... Il s'est pris le genou dans le terrain et il s'est fait les croisés avec Mini. Enfin, une grosse opération du genou. Du coup, il a pas rejoué. Un match en réserve, il était en fin de contrat. Voilà, il fallait qu'il trouve un club pour rebondir. Après, aujourd'hui, vous jouez en Ligue 1, je pense que vous avez quand même dizaines de clubs en Ligue 2 qui peuvent accueillir aujourd'hui, que ce soit financièrement. Bien sûr, les joueurs font un peu d'efforts parce que les salaires en Ligue 1 restent importants. Mais au niveau structurel, au niveau qualité de travail, vous pouvez offrir aujourd'hui à des clubs de Ligue 1 largement de quoi être très heureux en Ligue 2.
Ouais, c'est
à l'image de Jérémy.
Ouais, ouais. Où je pense notamment, Lucas, à un joueur comme Amir Richardson qui a été vendu au Stade de Reims, mais qui vous est prêté une saison. Quoi, parce qu'on fait confiance au Havre pour le faire progresser, le faire mûrir, avant de l'intégrer si Reims se maintient en Ligue 1, quoi, par exemple.
Moi, je pense que c'était logique pour lui et c'était une de nos demandes aussi, parce que c'est un garçon qui... qui en début de saison a commencé à prendre une ampleur vraiment forte dans notre effectif. Et puis bon, je pense qu'il y a quand même un historique de développement de jeunes joueurs au Havre et une expertise qui est présente depuis longtemps. Donc ça rassure aussi les clubs qui s'engagent dans des négociations avec nous pour être sûr que les jeunes vont avoir du temps de jeu et que le développement se fera. Mais je suis d'accord, il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui évoluent en Ligue 2 qui ont facilement leur place dans des effectifs de Ligue 1. Et donc ça rend l'aspect beaucoup, beaucoup plus compétitif.
Tiens, je vous rappelle qu'on est en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport lorsqu'on enregistre ce podcast, évidemment, Ligue 2 BKT, le débrief. J'ai une question pour vous, Olivier Frappoli, tiens, un fan de Laval, Alexis, qui me demande si Laval va essayer de recruter un attaquant sans passer par un essai. Est-ce qu'on peut attendre un attaquant d'ici le mercato hivernal, avant même le mercato? Est-ce que c'est un objectif de Laval?
Un objectif, mais après il y a une réalité, c'est que recruter un attaquant libre qui corresponde au profil que l'on recherche cette période de l'année, ça tient quasiment du miracle. Donc les bons attaquants sont pas aujourd'hui sans club, ouais. Évidemment. Donc voilà pourquoi on a essayé deux joueurs. Voilà, c'est pour valider l'état de forme, le profil, s'il correspond à ce que l'on recherche. On n'a pas les moyens de se tromper. On a seulement trois attaquants aujourd'hui valides au club, puisque sur les cinq, on en a deux blessés, dont un qui a été opéré, qui en a pour 6 mois. Donc on est un petit peu dans l'urgence, sachant ouais. que je joue avec deux attaquants. Mais on est aussi, c'est arrivé après le mercato, donc on est dans une situation aujourd'hui réglementaire qui nous restreint le champ des possibles. Et voilà, donc en joueur libre, il n'y a pas sur le marché, c'est très très rare. Donc après, il faut regarder sur des prêts, voilà, mais c'est aussi pas simple.
Bon, on réfléchit, mais avec les moyens du bord.
On travaille, on active les réseaux. Voilà, pour l'instant, c'est ça. On n'a pas trouvé la perle rare.
Alors c'est intéressant, messieurs, parlons de la période qui va s'ouvrir là, le week-end prochain, puisque ça va être un nouveau sprint dans ce championnat de Ligue 2, avant la trêve Coupe du Monde. 6 journées disputées, en plus de ça, il y aura au moins un tour de Coupe de France. Le premier tour pour les clubs de Ligue 2, c'est le 30 octobre. Le deuxième, ce sera le 20 novembre, d'ailleurs, le week-end juste avant la Coupe du Monde. Comment on aborde ce sprint lorsqu'on est entraîneur? Est-ce qu'on a refait un peu de foncier, Philippe Insberger, pour préparer les joueurs à cet enchaînement? Je crois d'ailleurs qu'il y aura une journée en semaine, hein, dans toutes ces rencontres qui vous attendent.
Hein. Écoutez, on vient de faire là deux mois de championnat, on a fait 9 matchs. Après, chacun vit la trêve internationale, enfin, on vient d'en faire une là, puisqu'on repart sur une journée de championnat samedi, comme il l'entend. Alors, entre les clubs qui ont des... Nous, on avait trois sélectionnés, par exemple, ouais. Maroc, Mali et Bénin, ou Sénégal. Après, vous savez, dans ces périodes-là, on a organisé un match amical contre Cuvier Rouen, qui s'est très mal passé, puisqu'on a perdu 5-2, mais enfin, bon, c'était pas très, très grave. la semaine dernière a plutôt été pour, en même temps, récupérer, rester dans l'activité et bien repartir sur le match qui nous attend dès samedi à Rodez. Voilà, on sait que on est prêt aujourd'hui pour enchaîner ouais. sur cette deuxième petite partie qui va se terminer assez rapidement. C'est pas tellement ça qui me questionne, c'est plutôt ce qui va se passer après avec les cinq semaines d'arrêt.
C'est pareil au Havre, Lucas. En plus, il y a un gros match qui vous attend samedi à Dijon, hein. Donc bon.
Oui, ça va être vraiment un défi énorme qui va nous être proposé à Dijon. On s'est préparé d'abord en se vidant un petit peu les têtes, en ayant un petit peu de jours off que les joueurs n'ont pas eu beaucoup sur la première période. Puis on a refait 4 grosses journées d'entraînement avec une opposition interne avec notre centre de formation pour avoir une revue d'effectifs, voir les options qui allaient arriver au cours de la saison. Parce que c'est vrai qu'on est très productif de ce côté-là. Et puis oui, c'est vrai que le mois et demi va passer très rapidement et que la coupure Coupe du Monde va débouler avec un petit peu, comment dire, d'effet surprise ou en tout cas une expérience que peu d'entre nous ont vécu avec cette coupure en plein milieu.
Là, il faudra prévoir des activités du paintball et compagnie, hein, messieurs. Là, il faudra les occuper, les joueurs. des stages commando ou ce genre de choses, quoi. Parce que là, il faut trouver des activités pendant ce mois, effectivement.
On va prendre un peu de vacances quand même.
Voilà, peut-être un peu de vacances aussi.
On va les lâcher un peu aussi, voilà. Parce qu'on les aime bien, mais de temps en temps, comme dit Luca, il faut lâcher la bride.
Et ça fera du bien à vos familles qui vous verront un peu dans cette période de l'année, ce qui n'arrive jamais normalement.
Exactement.
Olivier, la problématique est peut-être différente lorsqu'on entraîne Laval et qu'on a un effectif un peu plus restreint. Peut-être que ce marathon fait un peu plus peur qu'à Amiens ou qu'au Havre, finalement, là.
Alors nous, on a un peu comme mes deux collègues, la première semaine, on a régénéré le groupe, on leur a laissé aussi, après la victoire de Quevilly, quelques jours de repos. Nous, on sait qu'on est jusqu'à la coupure du mois de novembre, on est un peu à flux tendu parce qu'on a des blessés un peu longue date, donc on espère, j'ai envie de vous dire, presque pour nous, elle tombe bien, finalement, qu'elle arrive à cette période-là, cette coupure, parce ouais. qu'on espère récupérer quelques joueurs importants dans notre effectif pour le mois de décembre. Après, effectivement, ça sera historiquement une phase retour très très longue qui va démarrer en décembre et qui va se terminer en juin. En championnat national, on a l'habitude de jouer comme ça sur des longues périodes. Il n'y a pas de trêve internationale.
Exactement, donc, c'est un scandale d'ailleurs. Parce qu'il y a des joueurs internationaux parfois dans certains clubs.
Ouais. Exactement, donc voilà, après on a conscience aussi que oui, que ça va être, ça va être un petit peu très difficile sur cette année 2023 et qu'il faudra tenir le rythme jusqu'au bout de la saison. Et du coup, très important d'avoir un effectif qui soit le plus complet possible.
Alors messieurs, on l'a dit, on est à une phase importante du championnat. C'est la première trêve, donc on peut faire un premier bilan après 9 journées disputées. J'ai relevé quelques faits marquants. J'aimerais vous faire réagir par rapport à cela. Malheureusement, il y a un fait marquant extra-sportif que j'ai retenu. Ça ne vous a pas échappé forcément. C'est ce qui se passe à Nîmes. Les tensions entre la direction nîmoise et les supporters. Il y a eu une rencontre organisée au Costières le week-end dernier. 300 supporters nîmois qui sont venus assister à une rencontre avec la direction du club. Échange de plus de 3 heures qui s'est mal terminé malheureusement. La majorité des supporters est repartie mécontente de la réponse et de l'attitude de Rani Assaf, le président. On sent une grosse tension à Nîmes, pas mal de pression populaire. Est-ce que ce sont des situations que vous avez déjà connues? Est-ce que ça peut peser sur le sportif et sur le groupe? Peut-être celui qui a le plus d'expérience en Ligue 2, Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette situation pour l'instant?
Bah, c'est toujours dommageable, hein. De toute façon, quand il n'y a pas d'entente entre les différentes composantes d'un club et les supporters aujourd'hui en font partie intégrante, c'est sûr que c'est très très chaud. Moi, je l'ai connu au Havre justement dans l'année 2004 où j'entraînais le Havre 2004-2005.
Ah ouais.
Ça, c'est on a eu une saison très 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 compliquée. Je me rappelle que le président Louvel à l'époque avait après une élimination piteuse au 8e tour de la Coupe de France contre l'ennemi historique Rouen en plus, à Deschazeaux, avait organisé préalablement une réunion avec les supporters au théâtre du Havre. Il devait y avoir 1200 personnes. Et là, c'était horrible. Je veux dire, c'était horrible, quoi.
Donc, j'imagine.
Ouais. Je veux dire, et à un moment donné, ça a des répercussions obligatoires. Je veux dire, c'est clair que le mécontentement des supporters, il se fait entendre, bien sûr, sur le terrain, mais je veux dire, à chaque journée, le foot, c'est bien, mais il faut qu'il y ait certaines planètes qui soient complètement, ou à peu près, du moins, à peu près alignées, parce qu'autrement, c'est vraiment trop, trop dur. Donc, j'ai pas tout suivi ce qui se passe à Nîmes,
ouais.
Mais on sent que le club, effectivement, est en grande tension.
En gros, les prix ont augmenté en tribune pour empêcher les ultras de rentrer, eux qui veulent rentrer avec des banderoles anti-direction, évidemment Rani Assaf qui ne le souhaite pas et lui qui est exaspéré notamment par la présence de fumigène au Costières. Enfin, ça fait des mois que ça dure, évidemment. C'est intéressant, Olivier, parce que vous avez joué à Nîmes d'ailleurs au Costières le 27 août. Nous, on avait fait un épisode de Ligue 2 BKT le débrief avec votre joueur Jordan Adeoti qui nous avait dit « Moi, j'ai de l'expérience, j'ai joué souvent au Costières. Là, j'ai pas reconnu ce club. Quoi. Ce jour-là, c'était d'une tristesse à mourir. »
Ouais, il y avait très très peu d'ambiance, effectivement. C'était pas le Costières qu'on a l'habitude de connaître, où on sait que c'est toujours des matchs engagés et difficiles. Mais je rejoins Philippe sur l'importance d'aligner les planètes. De notre côté, ça a été un des projets forts de Laurent Léry et le président du Stade Lavallois quand il a repris le club. C'est de recoller un petit peu les morceaux et de faire en sorte que le climat au sein du club mais aussi dans l'environnement du club et notamment les supporters soient plus apaisés et pour permettre à l'équipe d'être moins sous tension, de jouer avec beaucoup plus de liberté et moins de pression. Donc, quand il y a des tensions comme ça au sein d'un club,
Ouais.
forcément, le sportif derrière en pâtit.
Après, évidemment, tout est lié au résultat et on le voit notamment à Amiens. La preuve, justement, on est en direct sur Twitch. J'ai un message pour vous, Philippe, avec un supporter qui nous dit: Philippe, je dois vous le dire, tous les 15 jours au stade, c'est un plaisir cette année. Merci pour ce beau début de saison. Voilà, comme quoi ça tourne vite.
Bah oui.
Et forcément, quand les résultats, ça change. Luca, votre avis sur cette question à Nîmes, les problèmes extrasportifs, le groupe est forcément impacté, malheureusement?
Bah, je pense que c'est le cas dans tous les clubs où les joueurs finalement n'ont pas pour un seul objectif d'être performants à l'entraînement et d'être performants le week-end, et qu'à partir du moment où il y a des énergies qui divergent un petit peu, il est très compliqué sur le côté purement sportif d'avoir de la réussite. Donc ça, c'est complètement logique. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde se sent un peu sur le même bateau, qu'il y a une énergie commune et que les supporters arrivent à s'identifier à ce qui se fait sur le terrain, et que les joueurs sentent voilà, une osmose, une compatibilité un petit peu de tous les secteurs du club, ben, les chances de réussir sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Après,
Mais c'est
je
intéressant
pense
ça,
que...
Luca, parce que vous arrivez dans un club comme le Havre qui a une identité forte et qui est basée notamment sur la formation de jeunes joueurs prometteurs. Ça veut dire que quand vous arrivez au Havre, vous savez que quoi qu'il arrive, il faut partir avec cette philosophie de faire progresser les jeunes joueurs pleins de talent, quoi. D'ailleurs, vous en avez dans l'effectif cette saison.
Oui. Après, c'est toute l'importance du recrutement que fait le club.
Ouais.
Et quand je parle du recrutement, c'est pas seulement le recrutement des joueurs, mais c'est aussi le recrutement des personnes qui vont diriger ça.
Et
Et moi,
ouais.
j'ai la chance d'adorer travailler avec des jeunes, de faire leur développement et les faire participer voilà, au développement du club. Donc, en tout cas, sur cette partie-là, nous étions complètement alignés.
Ouais.
Mais il faut toujours, je pense, respecter l'ADN du club, et il faut que les gens qui rentrent dans les projets soient alignés avec ce projet-là, parce que sinon, on va au-devant de grosses difficultés, probablement sur le moyen terme.
Ah, il est bon ce Bodmer. Ah ouais. Ça, nous, on le savait. Hein. Voilà, vous le découvrez peut-être, amateur de Ligue 2, mais nous, on savait qu'il était performant. En tout cas, ça se passe bien pour le Havre pour l'instant. Et puis, le problème de l'ADN des clubs, c'est que Philippe a fait déjà 18 clubs de Ligue 2, donc faut être une éponge, quoi. Si on doit s'adapter à chaque club, Philippe, ça devient compliqué à un moment.
J'en ai pas fait 18, hein. J'arrive en fin de carrière. J'arrive en fin de carrière. J'ai jamais fait parce que Giroud n'existe plus, donc on fait plusieurs clubs. J'ai
Ouais.
connu qu'un seul club en tant que joueur, mais
C'est
j'en ai fait
vrai.
quelques-uns comme entraîneur. Mais bon.
Exactement. Alors, messieurs, parlons tout de même du sportif dans les faits marquants. Parlons de cette équipe sochalienne qui nous surprend aussi. Il y a eu des changements à Sochaux. Il y a eu le départ de Mardaf, l'arrivée d'Olivier Guégan. Ils avaient un petit peu raté d'ailleurs leur première journée. Puis depuis, il y a un magnifique enchaînement. Il y a 6 victoires consécutives pour Sochaux. Ils ont battu Laval, d'ailleurs, on l'a dit, 4-1 il y a quelques semaines. Vous, Philippe, vous avez gagné d'ailleurs à Sochaux lors de la 3e journée. Donc, c'est
Oui.
lorsque Sochaux commençait à se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe alors, finalement?
Alors sur le match, nous on a fait plutôt un bon match à l'extérieur. Je ne veux pas dire que la victoire était méritée, encore une fois, mais c'était une des possibilités sur le match. Donc voilà, ils n'étaient pas bien du tout. Ils n'étaient pas bien du tout. C'était la 3e journée. Je crois qu'ils avaient un point. Ils n'avaient pas mis de but. Nous on a gagné là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné 1-0. Il commençait à avoir la pression sur le coach, Olivier Guégan, le nouveau coach. Il y avait du tumulte dans les tribunes. Enfin, quand on est reparti de là, on s'est dit, putain, Sochaux, ils sont quand même pas bien, quoi. Bon. Et donc, je suis alors, non pas assez surpris, mais je veux dire, c'est un club qui a vraiment redressé la barre d'une manière très, très spectaculaire, et qui a retrouvé de la confiance. Parce que,
Ouais.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on joue avec Sissoko, Vesbeck, Mauricio, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est une équipe qui, pour moi,
Ouais, oui.
est dans les 3 ou 4 meilleures équipes de la poule de Ligue 2, sans problème. Donc, ils ont certainement réussi, et c'est tout à l'avantage, certainement, d'Olivier aussi, et avec son staff, à bien redresser la barre et croire en ce qu'il faisait, et garder la confiance.
Et ils ont comblé le manque qu'ils avaient l'an dernier, c'était le manque de profondeur d'effectifs. Ça va beaucoup mieux cette saison. Et d'ailleurs, ce sont les spécialistes d'être menés au score et de réussir à inverser la tendance. Je me souviens que Laval, Olivier, a fait une bonne première demi-heure là aussi à Sochaux avant de céder 4-1. Mais vous leur aviez tenu tête, et puis après, le rouleau compresseur sochalien s'est mis en route, quoi.
Ouais, on menait 1-0.
En plus, ouais, voilà,
On menait
exemple
1-0 et
concret.
puis voilà, on est coupable de prendre. Deux cartons jaunes très rapidement, juste avant la mi-temps, on se retrouve à 10. Et on se fait égaliser dans le temps additionnel de la mi-temps. Donc, déjà, être à 10 pendant plus d'une heure à Sochaux, c'est compliqué. Avec l'avantage au score, ça aurait pu être jouable en étant à égalité au score à la mi-temps. On savait que la deuxième mi-temps, et on a la balle tout de suite de 2-1. On savait que ça serait difficile, quoi, et ça l'a été. Mais un peu comme Le Havre, je trouve qu'on a joué ces deux équipes pas au bon moment, parce ouais. que Le Havre venait de gagner son déplacement précédent, c'était la victoire à Saint-Etienne.
Ouais, 6-0.
Ensuite, on avait vu le match contre Amiens, qui était vraiment d'une grande qualité. Et c'était pareil pour Sochaux, quoi. Ils étaient lancés dans leur dynamique. Voilà. Donc après, Philippe l'a dit, c'est une équipe qui a fait les barrages l'année dernière, qui a gardé une grosse ossature de l'équipe et qui s'est renforcée. On parle de Fossurier aussi, qu'on ne présente plus, qui a largement le niveau de cette division, le recrutement de Sissoko. Donc pour moi, ils font partie sur ce début de saison des favoris légitimes.
Tiens, d'ailleurs, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, j'ai une question pour vous trois. Ce sera peut-être plus facile pour Olivier de répondre que pour Philippe ou Luca. Mais messieurs, pour vous, qui sont les favoris à l'heure où on se parle pour la montée en Ligue 1? C'est vrai qu'on ne l'a pas encore rappelé, mais il y a seulement deux montées sèches cette saison. Il n'y a plus d'histoire de barrage, puisqu'il va y avoir une réforme des championnats. Il y aura quatre descentes de Ligue 2 en nationale. Qui sont les favoris à l'instant T, messieurs, pour monter en Ligue 1? Olivier, allez-y.
Le Havre et Amiens.
Voilà, Le Havre et Amiens, comme ça, pas de problème. Bah, évidemment, Philippe et Luca vont pas se mettre dans les favoris, j'imagine, mais vous voyez qui est bien placé comme club, à votre avis, messieurs?
J'ai été assez impressionné par Bordeaux depuis le début de saison, de ce qu'ils font.
Ah ouais, bien sûr.
Ils ont attaqué avec des gamins dans leur effectif, et j'aurais trouvé une maturité technique assez surprenante pour une équipe de moyenne d'âge si basse. Et quand on sait qu'ils ont 4-5 joueurs recrutés depuis, dont un que je connais bien, Aliou Badji. Je les sens vraiment bien. Après, Le Havre est très très bien parti, avec une maturité qui est assez importante, et une qualité technique. Quand un effectif qui est très 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 puissant, c'est
dur.
Ça,
hein.
C'est très très dur. Sochaux va très très fort. Alors au moment M, Sochaux est quand même bien parti pour remonter, parce que on se demande aujourd'hui qui c'est qui va les arrêter.
Ouais, la série est excellente. Ouais. Luca, un avis?
Sochaux, clairement. Je pense que la production offensive parle d'elle-même. Il se crée énormément de situations de manière assez facile. S'ils arrivent à maintenir ce cap, il sera dur de les battre. Après, est-ce qu'on peut vraiment faire une croix complète sur Saint-Etienne?
C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y en a aucun qui m'a cité les Verts pour l'instant. C'est vrai que Saint-Etienne, c'est un des faits marquants d'ailleurs de ce début de saison, parce qu'ils avaient démarré tous leurs matchs à domicile à huis clos. Ça va changer à la reprise, mais surtout, ils avaient démarré avec 3 points de pénalité. Saint-Etienne, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le papier, c'est peut-être le plus bel effectif en quantité, en tout cas. On rappelle que les Verts sont pour l'instant en position de relégable, puisqu'ils sont 18e avec 7 points. Mais est-ce que vous les écartez, messieurs, de la course à la montée? Luca a dit non, mais vous, Philippe...
11 points, ça semble difficile, mais bon, voilà. Si la machine commence à tourner, le public revient au stade... Il va être compliqué d'aller chercher des points chez eux, et à l'extérieur, ils ont vraiment beaucoup de qualité. Donc après, c'est vrai qu'ils lâchent, en tout cas sur ce début de saison, ils lâchent facilement des points. Mais c'est à partir du moment où ça s'arrêtera, je sais pas.
Mmh. Philippe, on les écarte ou on les...
Non, pas du tout. Mais bien sûr que non. Mais au moment M, à la 9e journée, non, il ne faut pas partir clairement des gens qui peuvent monter. Ils sont partis avec, comme vous l'avez dit, des casseroles au cul énormes. Moins 3 points. Combien il y a eu
les 8 clos.
Des 8 clos. Enfin bon, voilà tout ce qu'il faut. Une capacité, une faculté à lâcher des points. Le problème de Saint-Etienne et de Bordeaux, c'est toujours des clubs. Alors Bordeaux est reparti avec des jeunes, c'est une autre configuration. C'est toujours on se met toujours à la place de ces clubs-là, qui sont des clubs de Ligue 1 depuis de très nombreuses années.
Ouais.
Et je crois que Bordeaux n'a jamais été relégué sportivement, une fois administrativement sous Claude Bèze. Vous étiez certainement pas né.
Non.
Mais voilà. et comment est-ce qu'ils peuvent gérer tous les matins le fait de se retrouver en Ligue 2 quand on voit au contraire d'un club comme Metz, par exemple, qui depuis une quinzaine d'années voyage entre la Ligue 1 et la Ligue 2, voire même nationale pour une année, mais arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et Metz, depuis 15 ans, chaque fois qu'ils sont descendus, ils sont exactement montés l'année suivante. Donc, eux, ils ont un certain savoir-faire que n'a pas aujourd'hui Bordeaux et Saint-Etienne. Alors, Bordeaux a l'avantage d'être bien parti dans son championnat. Saint-Etienne est parti à l'envers. Est-ce qu'ils ont pris trop de retard? Aujourd'hui, c'est difficile à dire.
Ouais, ça n'arrangeait pas, évidemment, Olivier Frappoli et Philippe, que vous mettiez Bordeaux.
Bordeaux, parce que c'est le prochain anniversaire de Laval. Hein. Ce sera lundi. Il y aura un Laval-Bordeaux. Évidemment, il y aura un Laval-Bordeaux à suivre. Et puis oui, pour moi, le dernier fait marquant tout de même, messieurs, de ce début de saison, et vous, ça ne vous a pas échappé, c'est forcément l'arbitrage. 43 cartons rouges en 90 matchs disputés. Il y en a eu 6 pour Metz, 3 dans le même match, hein, d'ailleurs, ce match complètement fou, où ils ont joué à 8 contre Guingamp pendant un peu plus d'une demi-heure. C'est arrivé à Saint-Etienne, d'ailleurs, contre vous, Le Havre, contre vous, Lucas. Cette victoire 6-0, ils avaient pris 3 cartons rouges. Déjà, quel souvenir vous gardez-vous de ce match, de vous retrouver comme ça à 11 contre 8? Ça doit être particulier pour un entraîneur aussi, on doit se dire, c'est pas commun, quoi.
C'est rare. Après, bon, c'est des faits qui sont allés vraiment dans notre sens. Il y a un moment où voilà, l'adversaire a perdu un petit peu le fil.
Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? On dit surtout faites attention parce qu'il peut équilibrer et mettre des cartons rouges à vous aussi, non?
Oui, clairement, ça fait partie du discours à la mi-temps, de faire attention qu'il n'y ait pas la contrepartie et de ne pas s'exposer. Parce que c'est vrai que chez nous, Aruna avait eu un geste un peu agressif en fin de première mi-temps, oui, et qui n'était pas nécessaire à ce moment-là. Mais c'est pas si facile à gérer qu'on le pense, même si forcément c'est surtout dans ce contexte-là, jouer à Saint-Etienne avec des expulsions qui s'enchaînent, ça facilite les choses. Mais oui, contexte très particulier et puis. Après, on s'est dit, ça va arriver une fois dans la saison, c'est pour nous. Et puis, rebelote sur le match des Messins. Donc, bon, oui, certainement des faits de jeu, en tout cas des faits de cette première partie de saison.
Comment vous l'expliquez, vous qui êtes entraîneur tous les trois, alors, Olivier, c'est quoi? C'est peut-être des consignes qui sont plus strictes, c'est moins de pédagogie? Comment vous vivez ça, vous, depuis le banc? Parce que vous avez pris les rouges aussi à Laval. Hein.
Ouais. Ouais, on en a pris deux. Un, je l'ai dit à Sochaux, mérité. Le premier à Bastia est un peu sévère. D'ailleurs, l'arbitre met un jaune au départ. Entre le joueur Lavallois et le joueur Bastia, il y avait plus d'une tête d'écart. Et c'est simplement en sautant. Il n'y avait aucune intention de blesser. Mais comme le joueur a l'arcade ouverte, l'arbitre a considéré qu'il y avait un fait grave. Donc il s'est ravisé, il a mis un rouge. Mais après, je pense qu'il y a eu des directives. D'être peut-être un peu plus sévère, mais plus sur les protestations.
Ouais.
Ça, je sais que ça a été évoqué, sur le fait de ne pas venir contester systématiquement une décision.
Et d'ailleurs, pour ce Metz-Guingamp, premier carton rouge Messin pour Kouyaté, c'est sur une contestation, vous avez raison de le signaler. Ouais.
Je sais que ça fait partie des directives, et je trouve que c'est assez logique. Alors bien évidemment, on n'est pas des robots, et les humeurs font partie du football, mais on doit aussi lutter contre ces faits-là. Pour le reste, il y a peut-être aussi, hein, c'est une saison où il y a historiquement que 2 montées et 4 descentes.
Ouais. Un peu de tension.
Voilà, on a parlé de Saint-Étienne, de Metz, de Bordeaux, ce sont des clubs historiques qui ont pour au moins 2 d'entre eux l'obligation de remonter. Hein, c'est une obligation certainement financière. Donc Ça pèse aussi dans l'intensité et la pression, même pour un début de saison, des matchs. On sent vraiment que la course au point est lancée dès la première journée.
Il va y avoir, on le rappelle, donc une réforme des championnats. La Ligue 1 va passer à 18 clubs, la Ligue 2 aussi. Donc, a priori, il n'y aura plus de petits, entre guillemets, en Ligue 2. Philippe, est-ce que ça veut dire qu'on doit espérer et pousser pour que, notamment, l'arbitrage vidéo débarque en Ligue 2? Parce que c'est quand même une anomalie qu'un championnat professionnel comme celui-là ne soit pas équipé d'arbitrage vidéo et de goal line technologie, par exemple.
De fait, mais bon, après, on voit que l'arbitrage vidéo, ce n'est pas non plus la panacée.
Parce bien sûr.
Le problème, ce que moi, je peux reprocher à l'arbitrage français, c'est que c'est une secte. Okay, c'est une secte. Alors là, on parle... Certainement, ils ont eu des... Parce que moi, je vois bien les matchs. Je suis comme Olivier et Luca. Les matchs, ils sont ni plus agressifs, ni plus engagés que les autres années. Faut pas... C'est la même chose. Après, les joueurs, il faut qu'ils soient éduqués. Kouyaté, il faut pas qu'il vienne pleurer s'il prend un deuxième jaune quand il vient contester à 3 cm de la bouche de l'arbitre. C'est des choses qui se font pas. Il va dehors, c'est normal. Voilà. Bon, donc les joueurs, il faut qu'ils arrêtent aussi. Ensuite, les arbitres, ils communiquent pas. C'est ça leur problème. Ils font des trucs, ils inventent des nouvelles règles. Chaque année, il y en a entre 10, 12 points qui sont modifiés chaque année. Nous, la dernière, on a eu un arbitre de Ligue 1 qui est venu nous parler à Amiens. Ouais. Des mains. gestion des mains dans la surface de réparation. Ah. C'est quoi? Moi, je suis sorti là-dedans d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, j'ai pris un Doliprane. Je comprenais encore moins, qu'avant qu'ils viennent nous expliquer. Non, mais faut savoir que, franchement, les arbitres, alors, ils sont pas du tout aidés. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'uniformité. Je prends, par exemple, la gestion des mains dans la surface de réparation. Ah, ben ça, d'un match à l'autre, c'est jamais les mêmes décisions.
Ça, c'est horrible.
Donc ça, c'est hyper chiant. Dernière chose pour moi, et je milite depuis longtemps. On est le seul sport collectif sans carton blanc. On est le seul sport collectif sans expulsion temporaire. Il y en a au handball, il y en a au basket, il y en a au rugby, il y en a partout. Et nous, il n'y en a pas. Donc, on continue à mettre des cartons jaunes à la con, des cartons rouges un petit peu précipités parce qu'on ne peut pas faire autrement. Au lieu de dire au mec, attendez, allez vous asseoir sur le banc 10 minutes. Pendant ce temps-là, monsieur le coach, bah, vous dégagez votre arrière droit, il dégage. Bah, là, vous allez faire du coaching. Oui, là, on va faire du coaching plutôt que quand on gagne 3-0 de faire sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur. Ou quand on perd 2-0 ou 1-0, on fait rentrer deux attaquants, on fait 1-1, on nous a dit « putain, super coaching ». Bon, donc c'est vraiment des conneries. Donc là, on pourrait faire du coaching, en plus, immédiat. Mais, et ça permettrait surtout aux arbitres d'avoir un petit peu plus de latitude, parce que c'est pas possible qu'on se retrouve cette année avec des matchs à une moyenne de un carton rouge par match, et il y a des matchs où il y en a deux. Enfin, il y a souvent des équipes qui se sont retrouvées à 9 cette année.
43 cartons rouges, terrible.
Mais c'est invraisemblable. Et quand on voit la nature des cartons rouges, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses, les semelles, comme l'a dit Luca, les coups de coude, tout ça, c'est des choses qui échappent un petit peu aux spectateurs ou aux téléspectateurs moins, justement, parce que on a des images. Mmh. Alors, bon, après, évidemment, que la vidéo, c'est une aide, quoi, sur les hors-jeux, sur les choses comme ça. Bon, après, je pense que les arbitres aujourd'hui, on a parlé de psychologie tout à l'heure, et leur problème, il est bien là. Enfin, il faut qu'ils aillent voir comment ça se passe. Moi, je leur dis tout le temps quand je suis énervé, je dis, mais putain, mais allez faire un stage en Angleterre. Enfin, on a l'impression que l'Angleterre, ils ont 100 ans d'avance sur nous, sur l'arbitrage, quoi.
C'est vrai.
Parce que nous, on peut pas faire une petite faute on peut pas toucher un mec sur des récupérations de ballon. Il y a tout le temps faute, donc si vous voulez, c'est tout le temps des actions qui sont coupées. Et ce qu'on voit pas en Angleterre, on dit que c'est beaucoup plus spectaculaire. Enfin, l'Angleterre, alors des fois c'est aussi exagéré, hein, parce qu'il y a des attentats, c'est des fois ils sont pas sifflés.
Philippe,
mais en Angleterre, il y a les actions. Enfin, l'arbitre laisse vivre le jeu, quoi.
J'ai l'impression d'entendre Coach Courbis sur RMC. Il est d'accord avec tout ce que vous dites, le carton orange, tout ça, l'exclusion temporaire. Mais ça, c'est son combat depuis des années et des années.
Mais comment c'est possible que le foot n'ait pas de d'expulsion temporaire? C'est incroyable. On a fait des essais dans des divisions départementales.
Enfin, et je trouve que le pire exemple de la saison, là on parle de tout championnat confondu, c'est peut-être la Ligue 1 avec Todibo qui prend un rouge au bout de 9 secondes. Alors là c'est pareil pour le travail de l'entraîneur.
Ah bah oui, bon après, vous savez, j'ai pas vu l'action, mais sur le coup, je dis toujours à mes défenseurs, les mecs, à un moment donné, si c'est au bout de, je sais pas, en première mi-temps, il y a un mec qui part au but, c'est pas la peine de le ceinturer, tu prends un rouge, et puis tu vas jouer à 11, à 10 tout le match, je veux dire, alors que t'as peut-être une heure pour te refaire, toi, il faut que les joueurs aussi fassent attention, quoi.
Alors avant de passer justement au talent RMC BKT de cette Ligue 2, c'est notre tradition dans ce podcast, j'ai une question pour Luca, tiens, un supporter avré qui me demande, Luca, nous on est habitué au Havre avec des bons débuts de saison et de s'écrouler un petit peu en deuxième partie. Ça va être quoi votre secret justement pour maintenir le niveau de performance, Luca, au Havre?
L'entraînement. S'entraîner beaucoup. C'est un peu sur ça qu'on se base. On s'entraîne vraiment beaucoup. C'est par le travail que l'on va essayer de durer et puis de progresser en tant qu'équipe parce que ça va être très compliqué. On va avoir beaucoup de matchs difficiles à jouer. On commence à ressentir les besoins de la profondeur de l'effectif parce qu'on commence à avoir des suspendus, quelques petites blessures. Donc c'est le travail collectif au quotidien qui peut nous permettre de durer, je l'espère. Maintenant, il faudra savoir se renouveler aussi parce que il faut pas qu'on soit une équipe à une seule facette. Aujourd'hui, on produit beaucoup d'attaques placées, on est assez performant sur les coups de pied arrêtés. J'ai hâte qu'on puisse développer un aspect de l'équipe que l'on n'a pas encore forcément vu, c'est la capacité d'être bon en transition offensive. C'est un point sur lequel on veut vraiment évoluer pour nous donner une arme supplémentaire.
Voilà. Ok, bah voilà la réponse.
Ils vont nous faire mal.
Hein. Ah, c'est ça.
Si en plus ils se mettent à contrer, on est mal.
Alors petite confidence, parce que Mathieu Bodmer est souvent dans les couloirs. Mathieu m'a dit, moi, peut-être le club qui m'a le plus impressionné de ceux qu'on a croisés en Ligue 2, c'est Amiens. Je vous le dis, Philippe, comme ça, entre nous.
Il m'a dit Amiens. Pas cette année, hein, je pense pas.
Ah, si, il m'a dit Amiens, c'est très costaud et devant, il y a du talent. Donc il m'a dit, franchement, Amiens, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi.
on confirme facilement à Amiens, il suffit de mettre le pied 3 cm sur le mauvais côté pour encaisser un but. Il faut vraiment voilà, être constamment sur le fil du bon côté et être très très vigilant. Il ne faut pas leur laisser voilà, un demi-mètre.
Olivier, on n'a pas beaucoup d'occasions, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit précis.
Ah ouais, c'est bien. Olivier, vous retenez la leçon hein, pour jouer contre Amiens. Voilà, faut faire attention, faut être vigilant. Notes, voilà, de la première à la dernière seconde. Allez, les talents RMC BKT.
Le talent RMC BKT de la journée.
Alors c'est une habitude qu'on a pris depuis 3 ans maintenant sur RMC parce qu'on est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Tous les matchs sont commentés, en tout cas vous pouvez les suivre tout au long de l'année. On récompense souvent le joueur qui brille lors du multiplex du samedi soir. Je le disais, ceux qui ont gagné cette récompense cette saison sont Miguel Alfarella de Bastia, Ilan Kebal du Paris FC et Dylan Bakwa de Bordeaux. Question toute simple, Lucas, Philippe et Olivier, est-ce qu'il y a un joueur, vous, sur le début de saison, qui vous a bluffé, voilà, que vous découvrez, que vous et dont vous vous dites, lui, il a un vrai avenir, en tout cas dans le foot. Allez-y, qui celui qui veut d'ailleurs.
Philippe. Moi, pour ma part,
Olivier, ouais.
Ouais. Donc moi, Mikoladze de.
Ah oui.
De Metz. Voilà.
Ouais, le Géorgien de Metz, ouais. Bah c'est marrant parce que ouais. Romain Thomas nous avait dit la même chose, le Canet, il nous a dit Mikoladze, je ne comprends pas qu'il ait pas eu sa chance. En Ligue 1, ouais, que Metz ne l'ait pas gardé pour le faire jouer en Ligue 1 l'an passé. Ouais. Ouais. Miko Tadze. Philippe, un joueur ?
Ouais, je suis d'accord avec Olivier, c'est un très très bon joueur. D'ailleurs, il a marqué contre nous. Il fait partie d'ailleurs des 3 joueurs qui ont été joués à Serein, le club satellite de Metz.
Exactement.
Et qui sortent quand même d'une équipe, d'une saison en première division belge, je pense que Lucas pourra confirmer, avec Maziz et Jalot. Voilà, donc c'est un partenariat qui est très intéressant.
3 titulaires.
Moi, j'ai noté aussi. Ouais. J'ai noté aussi, alors il a 23 ans, un peu plus vieux que ça, mais comme il vient un petit peu de nulle part, il est arrivé l'année dernière en cours de saison, c'est le petit Sanyang de
Grenoble.
Qu'on appelle Bamba, le petit gaucher, qui ressemble d'ailleurs un peu à Jalot. Je trouve que ce garçon, même s'il est un petit peu plus vieux, je veux dire, c'est quelqu'un qui amène une sacrée fraîcheur, en tout cas, dans notre championnat.
Et qui est polyvalent, il peut jouer partout.
Complètement. Ouais. Et quand on joue contre Grenoble, on préfère qu'il soit pas là.
Voilà, c'est ça. Lucas, il y a un joueur qui vous a sauté aux yeux?
Bah, écoutez, pas contre nous, mais je trouve que Crasso à Saint-Etienne, je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. Ça a pas été sur notre comptation, ça n'a pas été le cas, mais sur tous les autres matchs que j'ai pu regarder, c'est quelqu'un qui est très très dur à jouer. Donc oui, il m'a sauté aux yeux.
Crasso qui a largement contribué à la montée de la C Ajaccio l'an dernier, hein, Philippe.
Oui, c'est pas une surprise, oui.
En tout cas, le talent est là. Et puis c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de mal, notamment contre Bastia lors de cette victoire où il avait été exceptionnel. Moi, j'avais noté le petit Bouchouari à Saint-Etienne. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, messieurs, mais là aussi, gros volume de jeu malgré le petit gabarit. Ou alors le petit Keshta, monsieur Elsner. Un milieu de terrain du Havre.
Je voulais éviter de parler de mes joueurs.
On le protège, mais on l'a repéré celui-là déjà.
Non. mais après, c'est encore une fois dès la première journée de préparation, on sentait qu'il y avait un QI football extrêmement développé et qu'il comprenait tout avec un temps d'avance et il voyait de manière excellente le jeu et sa qualité technique lui permettait de jouer ces décisions-là. Donc non, c'est pas une surprise, mais oui, il fait un super début de saison.
On dit rien sur Naiji de Laval, Olivier ? Non, on le garde pour nous aussi ?
Ouais, bon, c'est plus un jeune joueur. C'est une découverte. Une autre découverte chez nous, c'est Julien Maggiotti.
Ouais, bien sûr. Qui a été très bon au National l'an dernier. Ouais. Voilà. Ouais. Pour ceux qui suivaient, ils peuvent. Il est meilleur joueur du National, je crois d'ailleurs, Olivier. Non ? Ouais. Ah, on a perdu Olivier, mais je crois que c'était le meilleur joueur du National l'an passé. Et puis, évidemment, Rocco Daré qu'on peut noter à Amiens, Philippe. Comme ça, vous avez chacun un joueur qui est identifié. Voilà.
Léoté, chez vous aussi, c'est pas mal.
Ah oui, Léoté, bien sûr, bon joueur.
Oui, alors c'est plus un jeune, hein, mais bon, c'est un garçon qui est exactement dans ce qu'il sait faire et on le met dans les meilleures conditions, même si on joue à 3 derrière, c'est quand même notre piston droit. Ça veut dire que de temps en temps, il défend un peu, mais bon, je lui autorise 20% de tâches défensives, pas plus. Alors, des fois, on choisit pas non plus, mais c'est vrai qu'il fait un très très bon début de saison.
Bon, et puis tiens, j'ai Drops sur le compte, évidemment, la chaîne Twitch d'RMC Sport qui me dit ne parlez pas trop de Keshta, sinon il va partir vite. On nous dit aussi, il y a Casimir du Havre qui est excellent depuis le début de saison. C'est vrai, d'ailleurs, je crois qu'il a prolongé, donc il y a moins de problèmes, Lucas.
Pour... Il sera avec nous.
Voilà.
Il sera avec
nous. Et puis, il y a le petit Cheikh Oumar Diakité hein, qui va intégrer l'effectif là, a priori au Havre, qui va être intéressant à suivre aussi. Hein.
Je pense qu'il faudra le suivre, effectivement, parce que c'est un garçon qui regorge de qualité.
Et voilà, on est d'accord. Luca, Philippe, Olivier, merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous. C'était passionnant. Hein, merci à vous. On vous souhaite une bonne suite de saison.
Avec plaisir.
Et je rappelle votre calendrier pour ce week-end, les matchs qui seront à suivre sur RMC. Il y aura Dijon-Le Havre à 19h samedi. À la même heure, Rodez-Amiens. Jamais facile d'aller jouer à Rodez, hein, Philippe. Hein. Il faut s'organiser pour y aller là-bas. Et Laval qui recevra Bordeaux lundi. Là aussi, gros match qui vous attend, Olivier Frappoli. Merci à tous les trois. Et dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ligue 2 BKT, le débrief. Salut à tous.
RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.